Aujourd'hui, 1er décembre, c'est donc la journée mondiale de lutte contre le sida. La tête au carré y est consacrée. Nous parlons en particulier de prévention avec mes trois invités, Sandrine Fournier, Florence Garcia et Luc Biec. Vos messages arrivent déjà en direct sur le site de l'émission sur franceinter.com. On va faire un petit tour de table pour commencer, pour vous présenter et bien comprendre vos activités, de quoi vous occupez exactement. Sandrine Fournier, donc en tant que chargée de mission prévention gay pour le SIDAction, quel est votre travail exactement? Alors, comment vous avez été amenée à travailler pour le SIDAction?
Alors mon travail, j'ai rencontré, étant anthropologue de formation, j'ai rencontré la problématique du VIH au travers d'un terrain assez longuement mené auprès de gays consommateurs de psychoactifs. L'une des questions transversales et liées au VIH était de savoir quelle était la nature du lien entre prise de produits et prise de risque sexuel. Mm-hmm. Donc c'est là, d'une certaine manière, c'est par ce biais-là que je me suis intéressée à cette problématique. Alors chez SIDAction, ça, être chargé de mission, bon, ce qui en gros veut tout dire et rien dire, hein, ça recouvre une grande variété d'activités. C'est d'abord du soutien méthodologique et notamment en termes d'évaluation auprès des associations. C'est aussi déterminé par l'acquisition et la veille, l'acquisition de connaissances autour. Alors là, moi, je m'occupe des gays. Il s'agit de déterminer quels sont les axes prioritaires qui vont être proposés mm-hmm. aux associations pour être financés sur projet. Donc,
oui.
Donc moi, je participe de déterminer cela. Des actions de plaidoyer aussi, surtout dans un contexte où les pouvoirs publics tendent à baisser les subventions allouées au VIH-SIDA en particulier.
Et sur la prévention, alors, quelle est l'action que vous menez en particulier?
Alors, l'action que je mène, c'est encore une fois d'aider les associations à construire leurs programmes et à les évaluer. Mais c'est aussi en amont, en déterminant les axes prioritaires que l'on souhaite financer, c'est donc inciter à développer tel ou tel programme. Le dépistage a été longtemps mm-hmm. notre combat à SIDAction, et on en voit enfin les fruits aujourd'hui. Et du coup, on encourage, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de nos associations qui travaillent sur le terrain à monter des programmes qui sont peu coûteux et ma foi assez efficaces avec les CDAG, les centres de dépistage anonymes et gratuits, mm-hmm. pour mettre en place des unités de dépistage mobiles là où sont les gens, des gens qui n'iraient pas vers le CDAG.
Alors, Florence Garcia, on le disait tout à l'heure, Kabiria, c'est une association lyonnaise qui a été fondée donc en 1993. Vous en êtes maintenant la directrice depuis 3 ans. Et vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est vraiment la parité qui fait la nature de cette association. C'est-à-dire que tous les acteurs qui en font partie viennent de différents domaines, donc celui de la prostitution évidemment, mais également celui de la recherche et de la médecine.
Alors, plutôt la recherche plutôt en sciences sociales, puisqu'il mm-hmm. Il y a en effet... À l'origine de Kabiria, ça a été pensé comme une alliance entre des universitaires, des personnes prostituées et des personnels soignants. Donc c'est cette alliance qui fait la force de l'association, parce qu'elle permet de faire une action de prévention qui est en accord avec les besoins des personnes et qui sort un petit peu des actions classiques qui étaient proposées aux prostituées jusque dans le milieu des années 90, qui étaient essentiellement des actions qui visaient à leur faire décrocher de ce boulot. Et les actions de santé communautaire ont commencé à justement attaquer le problème de la santé en se disant, il y a une situation de prostitution, on va, nous, accompagner les personnes pour que ça se passe dans les meilleures conditions de santé et de sécurité pour elles.
Mmh.
Et donc c'est vrai que la présence des prostituées, ça permet aussi de le fait qu'elles soient présentes et qu'elles participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions, ça permet de sortir un peu d'un regard victimaire qui serait posé sur elles, que ça serait des personnes qui n'ont pas de compétences. Les personnes acquièrent des compétences dans l'exercice de la prostitution et en particulier au niveau de la prévention.
Voilà, ce sont les premières actrices au fond hein, de ce travail de prévention.
Exactement, puisque en fait au quotidien, c'est vraiment elles qui sont exposées et qui sont qui ont sur leurs épaules la mission de faire porter le préservatif aux clients. Mmh. Et donc elles développent au quotidien des stratégies et des compétences là-dedans.
On va en parler avec vous pendant l'émission. Luc Biec, on va, pour commencer peut-être Luc, donner quelques chiffres sur justement le VIH en France. Je signale quand même que vous êtes le coordinateur de ce guide Têtu Plus, dont l'édition 2010-2011 vient de sortir. Guide gratuit d'information sur le VIH qu'on peut se procurer évidemment avec le numéro de Tétu. Hein. Alors 150 000 personnes sont actuellement infectées en France, hein, ça ce sont les chiffres, avec le nombre de contaminations en 2009 qui est en légère augmentation, en légère baisse.
Je pense qu'il y a une légère augmentation.
En particulier,
ça se confirme en 2009,
Sandrine Fournier. Chez les gays, le chiffre est dans l'ensemble plutôt stable, mais plus particulièrement en légère augmentation chez les gays, dans un groupe spécifique.
Les hommes sont les plus concernés par le VIH.
Les gays restent très très concernés. Il y a un discours là que je voudrais tout de suite préciser quelque chose, c'est que il y a certaines personnes dans le milieu militant qui disent que c'est un chiffre satisfaisant. Moi, je trouve que 6000 personnes, c'est encore énorme. Effectivement, on est très, très loin des années les plus noires du sida. Mais je suis persuadé que c'est un chiffre qu'on peut réduire. En Suède, par exemple, ils ont 500 contaminations par an. Donc voilà, ça me paraît vraiment important d'essayer de réduire ce chiffre.
Allez, encore deux chiffres, Sandrine Fournier. 38 ans, c'est l'âge de la découverte, l'âge moyen de la découverte de la séropositivité en France, c'est ça ? Vous le confirmez ?
Si vous le dites, Mathieu, je n'ai pas les...
Je voulais avoir votre approbation, mais je vous le confirme. 38 ans, c'est bien ça. Et puis 50 000 personnes, ça c'est alors peut-être le chiffre qui fait le plus réagir et qui également est à l'origine probablement de la nouvelle campagne d'incitation au dépistage. 50 000 personnes séropositives sans le savoir, Luc. Hein.
Oui, c'est des gens qui d'abord ne se considèrent pas comme à risque, puisque dans les débuts de l'épidémie, on a eu cette notion de groupe à risque et du coup, la personne qui prend des risques, c'est toujours un petit peu l'autre. Donc, il y a un tas de gens qui n'ont pas eu recours au dépistage. On est un pays qui dépiste quand même beaucoup, à savoir, est-ce qu'on dépiste beaucoup ? Ça ne veut pas dire qu'on dépiste forcément bien et qu'on dépiste les bonnes personnes. On a plutôt parlé, les chercheurs ont plutôt parlé de groupes vulnérables face au VIH. Je pense que c'est une expression qui est plus intéressante que celle de groupe à risque. Et effectivement, il y a fort à faire dans le domaine du dépistage, même si la mode du dépistage ne doit pas faire oublier la prévention de base.
Et c'est quoi la prévention de base ?
Pour l'instant, c'est la capote, uniquement la capote, puisqu'il n'y a pas d'autres méthodes aussi efficaces et quand même avec un coût relativement faible, parce qu'une capote, ça coûte presque rien.
Ouais. C'est d'ailleurs le mot d'ordre qui est rappelé inlassablement par les spécialistes, Sandrine Fournier. La capote reste quand même le moyen le plus fiable de se protéger contre la maladie.
Hein. Oui, tout à fait, mais sans doute pas suffisamment rappelé. Hein. Moi, ça m'évoque, j'avais été frappée par une campagne suisse qui montrait une photo, très simplement, et avec un slogan qui était « Bravo, continuez ». Et c'est peut-être ce qu'on oublie, en fait, de faire en France, c'est-à-dire d'encourager la majorité, c'est-à-dire y compris dans les milieux qui sont les nôtres, un peu spécialisés dans ces affaires de VIH, de prévention. On se creuse beaucoup la tête pour essayer de répondre aux situations des gens précisément qui ne se protègent pas. Mais du coup, on finit par oublier peut-être le fait que la majorité des gens se protègent. Et je tiens à le dire, en particulier chez les gays. C'est-à-dire, il faut voir que si les gays... D'abord, les gays, il faut préciser les choses. Il y a parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui vivent en couple, qui ont une sexualité très semblable à d'autres hommes hétérosexuels. Il y a donc un rapport et une expression de la sexualité qui est très très différente suivant les gens. Et effectivement, l'intérêt, et il faut en même temps porter un intérêt à ceux qui n'utilisent pas le préservatif, mais il faut rappeler aussi qu'ils sont vraisemblablement minoritaires.
Alors il y a ce message de Ben qui nous dit ceci, j'ai 30 ans, et je fais partie de cette génération qui a grandi avec l'arrivée du sida et qui a compris l'utilité du préservatif, mais quand je discute avec des jeunes de 18-20 ans, je vois la différence. Ils pensent que le préservatif ne protège que contre le plaisir, à quand une campagne pour le préservatif, comme ma génération, a pu suffisamment entendre. Alors là, il y a un vrai problème de génération et de communication sur les plus jeunes.
Effectivement, mais néanmoins, il y a des chiffres qui disent que les jeunes hétéros sont... Le chiffre d'utilisation du préservatif chez les hétéros au premier rapport est particulièrement élevé. Le seul problème, c'est qu'on n'a toujours pas d'éducation sexuelle à l'école en France et qu'on ne valorise pas toutes les formes de sexualité et toutes les formes de prévention.
Et j'ajouterais, pour te compléter, Luc, que s'il est tout à fait satisfaisant, en effet, même très très fort, autour de 80% pour le premier rapport sexuel, il baisse significativement au deuxième rapport sexuel.
Oui, c'est le problème. Ce n'est pas un usage sur la durée.
Florence Garcia, la capote pour les prostituées aussi, c'est le premier et le moyen le plus utile de se protéger ?
Oui, mais pas uniquement. La capote, elle est souvent est quasiment tout le temps associée à l'utilisation de gel lubrifiant qui permet qu'elle ne se déchire pas. Mmh. Et c'est en faisant la promotion constante de ces deux moyens associés, qui doivent être toujours associés, qu'on arrive à quand même globalement constater sur le terrain que les personnes... C'est leur norme préventive, c'est d'utiliser la capote, de la proposer aux clients, etc.
Alors ce qu'il faut bien comprendre, et c'est je crois l'un des combats aussi au sein de Cabiria et pour les prostituées, c'est de convaincre les clients d'utiliser la capote.
C'est plutôt ça
l'enjeu. Parce qu'il y a une pression énorme auprès de ces femmes.
C'est plutôt ça l'enjeu. À savoir que globalement, le premier mouvement des personnes qui se prostituent, ça va être de proposer la capote aux clients. Et qu'en effet, on va de plus en plus souvent voir qu'il y a des résistances de la part des clients qui vont essayer de négocier des rapports non protégés.
Est-ce qu'on arrive à l'évaluer ?
Nous, on dirait qu'à peu près, il y a 4 clients sur 5 qui demandent.
Qui souhaitent ne pas mettre de capote.
Voilà, qui souhaitent des rapports non protégés.
Donc c'est quand même beaucoup.
Oui. C'est quand même pas mal. Et donc ça veut dire qu'il faut que les personnes en face, elles aient des arguments, qu'elles aient les arguments pour les convaincre et qu'elles aient aussi, qu'elles se sentent finalement suffisamment sécurisées et suffisamment légitimes dans leur rôle. Et c'est vrai que la pénalisation, la criminalisation de la prostitution, du racolage et la criminalisation de toute la catégorie des personnes prostituées, ça les rend moins légitimes et ça les rend moins fortes face aux clients qui peuvent user. Il ne s'agit pas là de dire que tous les clients le font, mais il y a une certaine partie des clients qui peuvent essayer d'utiliser des arguments comme « mais de toute façon, tu n'as pas le droit de te prostituer », etc., etc., pour mettre de la pression aux personnes pour qu'elles acceptent des relations.
Ce qui est faux, faut le rappeler.
Ce qui est complètement faux. La prostitution n'est pas interdite.
Alors Luc Biec, à part évidemment donc ce grand classique de la capote, quels sont aujourd'hui quand même, parce qu'il y a toute une palette d'outils pour prévenir et réduire les risques, qu'est-ce qui est le plus efficace donc, dans ce panorama ?
On commence beaucoup à parler de l'efficacité des traitements parce que les scientifiques commencent à admettre que les gens qui se soignent sont beaucoup moins contaminants, qui transmettent beaucoup moins le virus. Il y a une théorie qui me paraît particulièrement intéressante, c'est la théorie dite en anglais du test and treat, c'est-à-dire que dès que les gens ont un test et qu'ils sont séropositifs, on leur donne le traitement le plus vite possible afin que la charge virale baisse et qu'ils ne transmettent plus le virus autour d'eux. Je pense que c'est vraiment une piste de réflexion tout à fait intéressante. Après, il faut effectivement des gens extrêmement bien formés, parce que convaincre quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il était séropositif, qu'il doit commencer un traitement tout de suite ou presque, je pense que c'est particulièrement délicat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sandrine.
Mais... écoute, il me semble que tout de même, des débats ont encore lieu, y compris au sein de la communauté médicale, mais il me semble quand même qu'un consensus est établi aujourd'hui en France sur... alors, en effet, comme tu viens de le dire, le bénéfice collectif de la mise sous traitement précocement, le plus tôt possible, mais aussi le bénéfice individuel, c'est-à-dire... on s'accorde aujourd'hui à dire que plus tôt on est en effet sous traitement et mieux et plus longtemps on préserve ses défenses immunitaires, tout simplement.
Oui. Luc ?
Oui, je confirme. Et les gens qui ont commencé un traitement, les gens qui sont contaminés assez jeunes, parce que c'est quand même un pourcentage assez élevé, qui commencent un traitement, en général, vont mieux. Et certaines recherches observent qu'ils prennent mieux, entre guillemets, leur vie en main, qu'ils font un peu plus attention à eux, qu'ils ont une meilleure observance, parce qu'effectivement, il faut rappeler que les séropositifs sont moins contaminants dans certaines conditions extrêmement strictes, notamment quand ils n'ont pas d'infection sexuellement transmissible. Et on en revient à la capote, puisque de toute façon, la capote protège de quasiment toutes les infections sexuellement transmissibles.
Alors, les autres outils de prévention, quels sont-ils ? On parle de la circoncision masculine. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment, ça ? Est-ce qu'on peut se fier à cette pratique pour se protéger ?
En général, on dit que ça, l'Agence nationale de recherche contre le sida dit que ça protège en Afrique. Effectivement, on donne un chiffre de 60% chez les Africains de réduction des... C'est de la réduction des risques. Pour moi, c'est pas exactement...
Circoncision et hygiène, je crois que les deux aussi sont très importants pour une certaine efficacité.
Oui, c'est-à-dire que la circoncision doit être réalisée dans des conditions médicales vraiment très, très adéquates. Ce qui n'est pas non plus forcément toujours évident, mais on ne peut absolument pas présenter la circoncision comme une méthode de prévention. C'est une des méthodes de réduction des risques qui existent aujourd'hui, qui est imparfaite et qui existe. mais ce n'est pas une méthode de prévention.
Mmh. Hélène nous dit ceci par courriel. Attention, vous parlez de population gay qui, semble-t-il, à vous entendre, serait uniquement constituée d'hommes, même si dans ce cas, ce sont les plus concernés. La population gay, rajoute Hélène, n'est pas uniquement masculine, Sandrine Fournier.
Pas du tout lesbophobe. Hein, mais je pense que les cas de transmission de lesbiennes à lesbiennes sont assez rares.
Les cordonnières sont les plus mal chaussées. Donc oui, enfin les gays, et pour ce qui est de la mission gay, il s'agit bien plutôt des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, qu'ils se définissent en tant que gays ou pas. On peut effectivement jouer avec les termes. Disons que gay ici et aujourd'hui désignera des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et l'assumant. Mm-hmm. On parlera sinon des lesbiennes.
Alors Antonio Fischetti, vous vous êtes intéressé donc vous aussi à la prévention et donc au grand classique qui fait toujours ses preuves, le préservatif. Vous êtes allé voir comment on les testait, ces capotes.
Oui, et pour ça, je suis allé au Laboratoire National d'Essai, le LNE. C'est là que sont testés la plupart des produits de consommation pour vérifier qu'ils répondent bien aux normes de sécurité. Et on y teste donc aussi les préservatifs qui portent le label NF, norme française.
Alors qu'est-ce que c'est que ce bruit, Antonio ?
Alors ça, c'est le gonflement d'un préservatif. Il est relié à une machine à air comprimé. Le but, c'est de tester sa résistance. Le préservatif le gonfle de plus en plus. Pour passer l'examen avec succès, il ne doit pas éclater avant un certain volume qui est de 16, 18 ou 22 litres selon la taille
du
préservatif.
Ah oui, pas mal. 22 litres, dites donc.
Voilà.
Ils sont très optimistes.
Et en général, il éclate aux environs de 35 litres.
Ah,
à
oui.
Ce stade, il faut imaginer qu'il fait à peu près 20 cm de diamètre et 1 mètre de haut.
D'accord.
Alors attention, il va bientôt éclater.
Et on part donc du principe que si le préservatif réussit ce test, il est suffisamment solide pour une utilisation normale.
Oui, et ce n'est pas tout. Ensuite, il y a l'épreuve de l'étuve. Alors ça, c'est un four chauffé à 70 degrés. Le préservatif y est placé pendant une semaine, ce qui va mettre en évidence les défauts de vulcanisation, s'il y en a. Et après, on fait encore un test d'éclatement.
Alors j'imagine qu'on ne teste pas tous les préservatifs un par un. Comment est-ce qu'on procède au juste, Antonio ?
Alors avant de mettre chaque lot de préservatifs sur le marché, le fabricant envoie un échantillon au LNE. Ce qu'on appelle un lot, c'est 150 000 préservatifs. Et là-dessus, 860 précisément sont destinés au test. Le protocole est extrêmement rigoureux, comme l'explique Sophie Morigal, la responsable des essais au LNE, avec toujours les éclatements de préservatifs en fond sonore.
En fait, on va tester d'abord 50 préservatifs. Si sur les 50, on n'a aucun défaut, l'essai est accepté. Si on a un défaut, on va faire encore de nouveau 50 essais. On va arriver à 100. Et à 100, s'il y a encore un deuxième défaut qui s'est trouvé dans ces 50 nouveaux, on va continuer jusqu'à 150, ainsi de suite. Voilà. 9 défauts sur 250, c'est accepté. Et au-delà, c'est refusé.
Ça ne doit pas être facile de travailler toute la journée avec ce bruit. Donc ça, c'est pour évaluer la résistance des préservatifs. Mais d'autres tests sont également effectués ?
Ah oui, alors déjà les dimensions qui doivent aussi répondre aux normes.
Donc ça, c'est pour mesurer la longueur. C'est un mandrin donc qui va jusqu'à 270 mm. Et ça, c'est pour mesurer la largeur des préservatifs. Et on talque les préservatifs avant de faire l'essai. Et on les pose tout simplement sur les socles et le mandrin pour mesurer les longueurs et largeurs. Et il faut qu'il fasse au minimum 16 cm. Voilà.
Et on teste évidemment l'étanchéité des préservatifs.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va poser chaque préservatif sur ces socles-là. Et on va mettre dedans de l'eau avec du sel, en fait de l'électrolyte. Et ces préservatifs ensuite qui sont remplis vont être plongés dans la même solution d'électrolyte. Et grâce à des électrodes à l'intérieur et à l'extérieur du préservatif, on va détecter s'il y a un trou, c'est-à-dire si le courant passe. Si le courant passe, ça veut dire clairement qu'il y a un trou.
Alors pour l'étanchéité, 315 préservatifs sont systématiquement testés. Et s'il y en a plus de 2 qui sont défectueux, le lot est renvoyé à l'usine pour être détruit.
Alors par an, on teste 1200 lots à peu près, on va dire par an. Alors en 2009, on a racheté 2% de l'eau non conforme. Ça fait à peu près 24-25 lots.
Et donc tous ces tests, Antonio, permettent de dire que les préservatifs sont sûrs.
Oui, alors, mais évidemment, même si le lot répond à la norme, le risque de trouver un préservatif défectueux n'est jamais complètement nul. Pour l'étanchéité, vu qu'on tolère 2 défauts sur 315, cela fait au maximum 0,6% de risque de tomber sur une capote percée. Et pour l'éclatement, avec une tolérance de 9 sur 250, on a au maximum 4% de risque de trouver un préservatif plus fragile que la normale.
Et les tests effectués au laboratoire national d'essais ne concernent que la norme NF. Hein.
Oui, exactement. Et il faut savoir que la norme NF est facultative. En Europe, seule la norme CE est obligatoire, qui, elle, n'impose pas de tests indépendants, comme ceux qui sont réalisés au LNE. Donc la norme NF apporte un énorme avantage en termes de sécurité. Ce n'est pas pour être chauvin, mais sortir couvert, c'est bien, et avec le label NF, c'est nettement mieux.
Voilà, avec le drapeau bleu, blanc, rouge.
Voilà.
Alors on pourra suivre toutes vos aventures au LNE, donc ce laboratoire, également dans les pages de Charlie Hebdo, puisque vous proposez une enquête avec des dessins de Charb qu'il faut également découvrir. Alors, il y a des questions toujours sur les préservatifs. Joël nous dit ceci à Nice. Je voudrais parler, nous dit-elle, des hommes de plus de 50 ans qui sont incapables d'avoir des rapports sexuels avec préservatifs parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'érection avec ces préservatifs. Ces hommes-là n'utilisent jamais donc de capote. Je ne sais pas si le taux d'infection par le VIH est élevé chez eux, mais c'est, dit-elle, un problème.
Oui, moi
alors,
je confirme.
Je ne sais pas si on peut généraliser.
Je ne sais pas si on peut généraliser, mais effectivement. Dans le Guy Têtu Plus, on a interviewé des femmes hétéros qui ont été contaminées par des hommes hétéros. Donc effectivement, ça existe. Il y a peut-être un problème chez certains hommes d'une génération qui aujourd'hui entre 50 et 70 ans, qui n'ont pas du tout été habitués à fonctionner avec un préservatif. Donc effectivement, on peut que leur conseiller d'essayer de résoudre ça avec quelqu'un de compétent. Mais
bon.
Effectivement, l'infection est importante, enfin, relativement importante chez les gens de plus de 50 ans. Et à un moment donné, c'était même une des cibles qui était citée parmi les gens à qui il fallait expliquer qu'il fallait remettre un préservatif.
Et typiquement, surtout, ce sont bien ceux-là qui, précisément, ne se sentent pas concernés. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, supposer que parmi ces 50 000 personnes qui ne savent pas vivre, qu'ils vivent avec le VIH, voilà, typiquement, ces hommes, sans doute, ne font pas le lien.
Et quand ils sont dépistés, c'est souvent extrêmement tard dans la maladie. Donc, effectivement, c'est plus compliqué à soigner. Donc, ils mettent en danger leur propre santé et celle des autres.
Florence Garcia.
Il y a une problématique aussi qui est importante, c'est que quand il y a un enjeu affectif très fort, les gens ils peuvent avoir des difficultés à se protéger. Parce que, par exemple, quand on est sorti d'une histoire, qu'on a vécu une rupture douloureuse et qu'on attend un peu impatiemment de trouver un nouveau partenaire et que là, la question du préservatif doit se poser, il y a des gens qui préfèrent renoncer au préso plutôt que voir filer l'opportunité. Ça pose une véritable question parce que ça veut dire que encore maintenant, ça reste encore tabou de parler de ça. Et ça conduit à des histoires que voilà, on baisse la garde dans ces moments-là et on se dit que finalement, l'autre, c'est quelqu'un de bien. Donc ça veut dire qu'il y a toujours dans la tête des gens que, quelque part, les personnes qui auraient pris des risques ne seraient pas des gens bien. Et ça, je crois qu'au quotidien, il faut qu'on lutte contre cette image-là. Avec les personnes prostituées, on remarque qu'elles peuvent rencontrer des difficultés à poser le préservatif comme une norme de prévention dans leur vie personnelle, comme toutes les femmes, dans leurs négociations perso, avec leurs amants, leurs maris, etc., etc. Et que là, elles vont avoir des pressions de « ouais, mais moi, je ne suis pas comme les autres, on va faire sans préservatif », alors qu'avec leurs clients, la distance permet qu'elles aient une norme à laquelle elles se tiennent.
Allez, encore 3 messages au sujet des préservatifs. Julie, j'ai 33 ans, je suis hétéro. Je constate que depuis 10 ans, j'ai toujours autant de mal à faire accepter à mes partenaires le port de la capote. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas le même plaisir, même si j'insiste systématiquement. Quand on l'oublie, elle ne me manque pas. Un message de Mathieu, je trouve qu'il y a un problème de fiabilité avec la capote. En tant que seul unique moyen de protection, le préservatif devrait être 100% fiable. Alors je sais utiliser un préservatif et je n'ai pas des pratiques extrêmes ou particulièrement acrobatiques. J'ai pourtant eu 6 ruptures de capote en 10 années de sexualité, ce qui me paraît énorme.
Peut-être qu'il faut rappeler à ce monsieur que le préservatif s'utilise, comme le disait Florence, systématiquement avec du gel lubrifiant, pas seulement pour la sodomie, quand on est gay, quand on est hétéro. Quand on est lesbienne et qu'on souhaite se protéger, on peut utiliser quelque chose qu'on trouve pas, malheureusement pas souvent, c'est une digue dentaire, je ne sais pas si ça se vend encore. Et il y a aussi le préservatif féminin dont on parle assez peu, ouais. Qui est pourtant un outil qui est assez bien vécu par certaines femmes parce qu'elles l'utilisent et elles en sont assez satisfaites. Simplement, il faut pouvoir le trouver, ça s'appelle le fémidon. Et il y a plein de pharmacies qui ne savent même pas ce que c'est qu'un fémidon. Donc peut-être qu'il y aurait une politique, quelque chose à faire du côté de la santé publique pour valoriser le préservatif féminin également et expliquer clairement à ce monsieur comment ça s'utilise. Parce que même si on sait l'enfiler, après, il faut y ajouter quelque chose.
Est-ce que les personnes prostituées l'utilisent
Le
fémidon. Florence Garcia, oui.
Oui, certaines d'entre elles. Là,
parce qu'au fond, c'est un bon moyen de se protéger sans être obligé de lutter contre le client qui, lui, refuse de mettre une capote, non ?
Oui, alors c'est une grande question. Nous, on a parlé avec les personnes à ce sujet-là. Il y en a qui nous ont dit « Ah bah non, ah non, vu comme on a dû se battre pour leur faire accepter le préso masculin, on va pas maintenant les lâcher là-dessus ». Donc ouais. Ça me paraît essentiel. Il y en a d'autres qui ont dit « Bon, bah ok, de toute façon, moi, je peux très bien utiliser le préservatif féminin et voilà, pas de problème. Du moment qu'on est protégés tous les deux, ça ira. » Après, ça va être un outil qui est plus adapté à une pratique de la prostitution en appartement ou en camionnette et beaucoup moins à une pratique de la prostitution dans la rue.
Et puis enfin, Guillaume, fellation et préservatif. Certaines femmes pensent que le préservatif n'est pas nécessaire dans ce cas. Vrai ou faux ? Alors ?
Et les hommes, que pensent-ils ?
Est-ce qu'il y a des réponses claires là-dessus ?
Il y a des contaminations au VIH avec des fellations sans capote. Pour l'instant, on ne peut absolument pas conseiller à quiconque d'enlever la capote pour la fellation. Ça existe, ça a été répertorié. Après, il y a la vraie vie et ce qu'on peut conseiller. On sait qu'il est relativement peu utilisé pour la pipe, mais pour la... Franchement, je crois qu'on ne peut pas délivrer ici un message de santé publique incitant à ne pas l'utiliser pour la fellation.
Alors, sur quoi sont basées les 50 000 personnes potentielles qui ne savent pas qu'elles sont séropositives en France ? Ça, c'est une question de Maryse qui me semble effectivement intéressante. Comment est-ce qu'on peut chiffrer, puisque précisément les personnes ne le savent pas ? Alors, Sandrine Fournier.
Ce sont je ne rentrerai pas dans les détails que je ne maîtrise pas du reste, hein, c'est très complexe ces calculs-là, mais c'est fait à partir notamment des données. On peut notamment le déterminer assez précisément parce que on sait déterminer aujourd'hui, lorsqu'on découvre une séropositivité, à quel moment elle est survenue, c'est-à-dire qu'on sait quand la personne a été contaminée. Et donc c'est à partir de ces probabilité, c'est-à-dire on détermine qu'elle est découverte séropositive aujourd'hui, qu'elle a vécu avec le virus pendant tant d'années sans le savoir, et c'est à partir de l'extrapolation et de
oui, c'est ça, c'est de l'extrapolation.
Oui, tout à fait. Mais ces chiffres, je le rappelle, sont à prendre très au sérieux.
D'ailleurs, c'est une moyenne, hein, 50 000, je crois, Luc Biac. Hein.
Oui, c'est plus ou moins. Hein. C'est une moyenne, peut-être que c'est 42, peut-être que c'est 72, on n'en sait rien. Mais c'est une évaluation qui me paraît tout à fait sérieuse et que de très nombreux scientifiques ont recoupé selon des méthodes qui sont utilisées dans tous les pays européens.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le plan Bachelot 2010-2014, donc qui prône un dépistage généralisé pour toutes les personnes entre 15 et 70 ans ? Ça veut dire quoi, un dépistage généralisé, d'abord ?
Alors, ça veut dire élargir l'accès au dépistage, ça c'est très très important. C'est-à-dire que le dépistage soit proposé plus souvent.
Donc général, mais pas obligatoire.
Alors, évidemment pas obligatoire. Hein. On sait bien que ça ne fonctionnerait pas de toute façon.
Paraîtrait une bonne chose ou pas, un dépistage obligatoire pour protéger des milliers de personnes qui sont contaminées ou qui décèdent du sida ?
Non, absolument
pas. Pour quelle raison ?
Parce que normalement, tout ce qui est obligatoire fait que les gens fuient encore plus. On voit qu'il y a énormément de choses qui sont obligatoires.
On l'a vu avec la grippe H1N1 et le courrier qu'on recevait chez soi, mais qui est allé se faire vacciner ? Bon, ça ne fonctionne pas, donc soyons pragmatiques.
Il y a le questionnement aussi des perdus de vue. On sait très bien que si les personnes, quand les personnes font la démarche d'aller faire le dépistage, qu'elles flippent ou pas, etc., elles y vont, on a peut-être un peu plus de chance qu'elles aient initié là une démarche qui leur permet qu'après on puisse enclencher sur un traitement, etc., etc. Un dépistage obligatoire, on prend le risque énorme que les personnes, elles vivent ça comme un truc super traumatisant et qu'elles disparaissent dans la nature et que jamais on puisse mettre en place des démarches de soins avec elles.
Alors par qui sera proposé ce dépistage généralisé, en l'occurrence, Luc Biec ?
Je sais qu'on va demander aux généralistes de le proposer un petit peu plus. Et j'ai entendu dans plusieurs conférences qu'il y avait certains généralistes qui ne souhaitaient pas le faire parce qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise pour parler de sexualité avec les personnes qu'ils suivent.
On va néanmoins leur donner des outils pour le faire également. Hein. Ça,
ouais,
ça
je crois qu'ils en ont bien besoin.
Oui, ouais. Je crois aussi. Ouais.
Alors, ce dépistage, il a été plutôt bien reçu par les acteurs de la lutte contre la maladie ?
Ah mais évidemment, enfin il était temps, hein. Ça mm-hmm. fait des années qu'on sait qu'il est nécessaire de dépister bien plus largement et qu'on ne le fait pas. Donc, il était grandement temps qu'on élargisse le dépistage. Je reprends l'expression dépistage généralisé.
Oui.
Ça recoupe plusieurs réalités, c'est-à-dire que de mon point de vue, toute personne adulte ayant une vie sexuelle gagne au moins une fois dans sa vie pour commencer à être dépistée, à savoir où elle en est. Et puis par ailleurs, il y a ce qu'on appelle le dépistage ciblé, c'est-à-dire inciter les gens qui sont considérés comme plus vulnérables en raison de la prévalence dans leur groupe, donc les homosexuels, mais mm-hmm. aussi les migrants d'origine subsaharienne, d'Afrique subsaharienne, etc. Et là, on peut être dans des situations très différentes, ce qui par exemple montrait l'étude Prévaguée, c'est-à-dire une enquête qui était réalisée dans les auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes dans les établissements gays parisiens. C'est très intéressant parce que et assez effrayant d'ailleurs, parce qu'elle montrait que un nombre significatif de ces hommes pensait être séronégatif, et s'ils pensaient être séronégatifs, c'est parce qu'ils s'étaient fait justement dépister moins d'un an auparavant. Mm-hmm. Or, précisément, en raison de leur pratique, il se trouve qu'un nombre significatif a été testé positif lors de cette étude. Mm-hmm. Et donc, on voit bien que la question, c'est au moins une fois, si on ne l'a jamais fait, lorsqu'on n'a pas nécessairement des pratiques à risque, et comme il est difficile et la perception subjective de « suis-je concerné ? Ai-je des pratiques à risque ?» induit vraiment la systématisation de « au moins une fois ». Et puis, régulièrement, si on a une vie sexuelle avec différents partenaires au cours du temps, et puis, voilà, lorsqu'on a dans des sous-cultures érotiques, que ce soit chez les gays, ou chez certains gays, chez certains sous-groupes, ou chez les échangistes hétérosexuels, alors là, autant de fois que nécessaire. Mmh. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant, autant de fois que nécessaire.
Alors, Florence Garcia, le Conseil national du SIDA a donné un avis et a souligné les conditions difficiles d'accès à la prévention et aux soins des personnes prostituées. C'est un appel fort pour vous ?
C'est un appel très fort. Ça fait plusieurs années que les associations qui font de l'accès à la prévention, aux soins avec les personnes prostituées, ça fait de nombreuses années qu'on porte ce combat, qu'on le porte auprès du ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, à savoir que en criminalisant tout un groupe qui exerce cette activité, on ne fait qu'entraver l'accès à la prévention, aux soins.
Le mot est fort, hein, criminaliser.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la prostitution n'est pas interdite, mais c'est le racolage qui est interdit. Mmh. Dans les faits, ça expose les personnes prostituées à une justice policière, puisque c'est bien la police qui va estimer si la personne est en situation de racolage ou pas. Donc les personnes sont embarquées éventuellement en garde à vue. Bon, maintenant, il y a moins de condamnations, mais du coup, ça fait peser sur elles une espèce de stigmates qui fait que c'est des délinquantes, qu'on n'a pas besoin d'elles dans nos cités. Et dans beaucoup d'endroits, on a des politiques qui visent à les exclure des centres-villes et à les reléguer vers les périphéries. Ce qui rend toute action de prévention en leur direction très complexe. On sait aussi que la précarité des personnes les met dans la difficulté, justement, si y a une personne qui attend le client et qui est vraiment à court d'argent, elle aura beaucoup plus de mal à résister à une proposition d'argent.
Vous avez des financements, justement, des aides pour les associations qui travaillent avec les prostituées, ou c'est très compliqué ?
Alors justement, en ce moment, c'est très très compliqué. Plusieurs associations de santé communautaire voient leur financement d'État se réduire. Donc que ça soit sur le volet lutte contre le sida dans certaines régions, ou alors sur le volet lutte contre les discriminations, cohésion sociale, etc. Il y a plusieurs associations en France, dont Kabiria, en ce moment, on n'est pas les seuls concernés à avoir des grosses ruptures, des gros baisses de financement.
Sandrine Fournier, on va terminer également là-dessus. La prévention, est-ce que c'est une priorité des politiques de santé publique aujourd'hui, ou il y a encore beaucoup de chemin
non,
à faire?
Visiblement pas. La prévention, d'abord, sur le... la prévention, elle est incluse dans un ensemble... et dans un contexte idéologique, politique, social. En quelques mots, là, il a été fait référence aux textes de loi et aux réformes qui ne sont pas sans impact sur la pour ce qui est des prostituées, mais c'est le cas aujourd'hui, évidemment, dans la restriction des droits des étrangers, notamment le droit de séjour pour soins. On a dans le cadre des lois Besson, par exemple, il y a un point qu'il faut absolument mettre en lumière, c'est le fait que on a voulu modifier par un amendement, un terme qui était donc auparavant avait droit de séjourner pour soins des personnes qui n'avaient pas accès dans leur pays au traitement. Aujourd'hui, on change le terme d'accès par le terme de traitement disponible dans le pays, accessible ou pas.
On en avait parlé, hein, Luc, sur cette
oui,
antenne.
Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il faut une cohérence des politiques de santé publique. Et quand on parle de dépistage généralisé, ça doit effectivement comporter les migrants qui doivent oser aller se faire dépister sans avoir peur de se faire foutre en prison dans le chemin qui les mènera au centre de dépistage. Il faut vraiment une politique globale plus cohérente.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venu cet après-midi donc dans La Tête au Carré. Merci beaucoup Antonio Fischetti. Et puis donc je signale le guide Têtu Plus, la nouvelle édition, avec évidemment beaucoup d'outils, de conseils et d'informations. Ce guide est gratuit.
Il est mixte, hein, pour le dire à notre auditrice, voilà. Tout le monde peut le lire.
Toutes les infos sur têtu.com. Merci beaucoup.